Jules Michelet. La sorcière. Livre deuxième. Chapitre 4. Les sorcières basques. 1609. Cette vigoureuse exécution de prêtre indique assez que M. de Lancre est un esprit indépendant. Il l'est en politique. Dans son livre du prince, 1617, il déclare sans embâge que « la loi est au-dessus du roi ». Jamais les Basques ne furent mieux caractérisés que dans le livre de l'inconstance. Chez nous, comme en Espagne, leurs privilèges les mettaient quasi en république. Les nôtres ne devaient au roi que de le servir en armes. Au premier coup de tambour, ils devaient armer 2000 hommes sous leur capitaine basque. Le clergé ne pesait guère, il poursuivait peu les sorciers, l'étant lui-même. Le prêtre dansait, portait l'épée, menait sa maîtresse au sabbat. Cette maîtresse était sa sacristine, ou bénédicte, qui arrangeait l'église. Le curé ne se brouillait avec personne, disait à Dieu sa messe blanche le jour, la nuit au diable la messe noire, et parfois dans la même église. Lancre. Les Basques de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, têtes hasardeuses et excentriques, d'une fabuleuse audace qui s'en allait en barque en aux mers les plus sauvages harponner la baleine, faisaient nombre de veuves. Ils se jetèrent en masse dans les colonies d'Henri IV, l'Empire du Canada, laissant leurs femmes à Dieu ou au diable. Quant aux enfants, ces marins, fort honnêtes et probes, y auraient songé davantage s'ils en eussent été sûrs. Mais, au retour de leurs absences, ils calculaient, comptaient les mois, et ne trouvaient jamais leur compte. Les femmes, très jolies, très hardies, imaginatives, passaient le jour assises au cimetière sur les tombes, à jaser du sabbat, en attendant qu'elles y allassent le soir. C'était leur rage et leur furie. Nature les fait sorcières, ce sont les filles de la mer et de l'illusion. Elles nagent comme des poissons, jouent dans les flots. Leur maître naturel est le prince de l'air, roi des vents et des rêves, celui qui gonflait la sibylle et lui soufflait l'avenir. Leur juge qui les brûle est pourtant charmé d'elles. Quand on les voit, dit-il, passer, les cheveux au vent et sur leurs épaules, elles vont dans cette belle chevelure si parée et si bien armée que, le soleil y passant comme à travers une nuée, l'éclat en est violent et forme d'ardents éclairs. De là, la fascination de leurs yeux, dangereux en amour autant qu'en sortilège. Ce bordelais, aimable magistrat, le premier type de ces juges mondains qui ont égayé la robe au XVIIe siècle, joue du luth dans les entr'actes et fait même danser les sorcières avant de les faire brûler. Il écrit bien, il est beaucoup plus clair que tous les autres, et cependant on démêle chez lui une cause nouvelle d'obscurité, inhérente à l'époque. C'est que, dans un si grand nombre de sorcières, que le juge ne peut brûler toutes, la plupart sentent finement qu'il sera indulgent pour celles qui entreront le mieux dans sa pensée et dans sa passion. Quelle passion ? D'abord une passion populaire, l'amour du merveilleux horrible, le plaisir d'avoir peur, et aussi, s'il faut le dire, l'amusement des choses indécentes. Ajoutez une affaire de vanité, plus ces femmes habiles montrent le diable terrible et furieux, plus le juge est flatté de dompter un tel adversaire. Il se drape dans sa victoire, trône dans sa sottise, triomphe de ce fou bavardage. La plus belle pièce en ce genre est le procès-verbal espagnol de l'autodafé de Logroño, 9 novembre 1610, qu'on lit dans Llorente. Lancre, qui le cite avec jalousie et voudrait le déprécier, avoue le charme infini de la fête, la splendeur du spectacle, l'effet profond de la musique. Sur un échafaud étaient les brûlés, en petit nombre, et sur un autre, la foule des relâchés. L'héroïne repentante, dont on lut la confession, a tout osé. Rien de plus fou. Au sabbat, on mange des enfants en hachis, et pour le second plat, des corps de sorciers déterrés. Les crapauds dansent, parlent, se plaignent amoureusement de leur maîtresse, les font gronder par le diable. Celui-ci reconduit poliment les sorcières, en les éclairant avec le bras d'un enfant mort sans baptême, etc. La sorcellerie chez nos Basques avait l'aspect moins fantastique. Il semble que le sabbat n'y fût alors qu'une grande fête où tous, les nobles même, allaient pour l'amusement. Au premier rang y figuraient des personnes voilées, masquées, que quelques-uns croyaient des princes. On y voyait autrefois, dit l'encre, que des idiots, des landes. Aujourd'hui on y voit des gens de qualité. Satan, pour fêter ses notabilités locales, créait parfois en ce cas un évêque du sabbat. C'est le titre que reçut de lui le jeune seigneur Lancinena, avec qui le diable en personne voulut bien ouvrir la danse. Si bien appuyées, les sorcières régnaient. Elles exerçaient sur le pays une terreur d'imagination incroyable. Nombre de personnes se croyaient leurs victimes et réellement devenaient gravement malades. Beaucoup étaient frappés d'épilepsie et aboyaient comme des chiens. La seule petite ville d'Ax comptait jusqu'à 40 de ces malheureux aboyeurs. Une dépendance effrayante les liait à la sorcière, si bien qu'une dame appelée comme témoin, aux approches de la sorcière qu'elle ne voyait même pas, se mit à aboyer furieusement et sans pouvoir s'arrêter. Ceux à qui l'on attribuait une si terrible puissance étaient maîtres. Personne n'eût osé leur fermer sa porte. Un magistrat même, l'assesseur criminel de Bayonne, laissa faire le sabbat chez lui. Le seigneur de Saint-Pé, Urtubie, fut obligé de faire la fête dans son château. Mais sa tête en fut ébranlée au point qu'il s'imagina qu'une sorcière lui suçait le sang. La peur lui donnant du courage, avec un autre seigneur, il se rendit à Bordeaux, s'adressa au Parlement, qui obtint du roi que deux de ses membres, messieurs d'Espagnet et de Lancre, seraient commis pour juger les sorciers du Pays basque. Commission absolue, sans appel, qui procéda avec une vigueur inouïe, jugea en 4 mois 60 ou 80 sorcières, et en examina 500, également marquées du signe du diable, mais qui ne figurèrent au procès que comme témoins, mai-août 1609. Ce n'était pas chose sans péril pour deux hommes et quelques soldats d'aller procéder ainsi au milieu d'une population violente, de têtes fort exaltées, d'une foule de femmes de marins hardis et sauvages. L'autre danger, c'était les prêtres, dont plusieurs étaient sorciers, et que les commissaires laïcs devaient juger, malgré la vive opposition du clergé. Quand les juges arrivèrent, beaucoup de gens se sauvèrent aux montagnes. D'autres hardiment restèrent, disant que c'étaient les juges qui seraient brûlés. Les sorcières s'effrayaient si peu qu'à l'audience elles s'endormaient du sommeil sabbatique et assuraient au réveil avoir joui au tribunal même des béatitudes de Satan. Plusieurs dirent « Nous ne souffrons que de ne pouvoir lui témoigner que nous brûlons de souffrir pour lui ». Celles que l'on interrogeait disaient ne pouvoir parler. Satan obstruait leur gosier et leur montait à la gorge. Le plus jeune des commissaires, Lancre, qui écrit cette histoire, était homme du monde. Les sorcières entrevirent qu'avec un pareil homme, il y avait des moyens de salut. La ligue fut rompue. Une mendiante de 17 ans, la Murgui, Margarita, qui avait trouvé lucratif de se faire sorcière, et qui, presque enfant, menait et offrait des enfants au diable, se mit avec sa compagne, une Lisalda de même âge, à dénoncer toutes les autres. Elle dit tout, décrivit tout, avec la vivacité, la violence, l'emphase espagnole, avec 100 détails impudiques, vrais ou faux. Elle effraya, amusa, empauma les juges, les mena comme des idiots. Ils confièrent à cette fille corrompue, légère, enragée, la charge terrible de chercher sur le corps des filles et des garçons l'endroit où Satan aurait mis sa marque. Cet endroit se reconnaissait à ce qu'il était insensible et qu'on pouvait impunément y enfoncer des aiguilles. Un chirurgien martyrisait les vieilles, elles, les jeunes, qu'on appelait comme témoins, mais qui, si elles les disaient marquées, pouvaient être accusées. Chose odieuse que cette fille effrontée, devenue maîtresse absolue du sort de ses infortunés, alla leur enfonçant l'aiguille et put à volonté désigner ses corps sanglants à la mort. Elle avait pris un tel empire sur l'encre qu'elle lui fait croire que, pendant qu'il dort à Saint-Pé, dans son hôtel, entouré de ses serviteurs et de son escorte, le diable est entré la nuit dans sa chambre, qu'il y a dit la messe noire, que les sorcières ont été jusque sous ses rideaux pour l'empoisonner, mais qu'elles l'ont trouvé bien gardé de Dieu. La messe noire a été servie par la dame de Lancinena, à qui Satan a fait l'amour dans la chambre même du juge. On entrevoit le but probable de ce misérable conte. La mendiante en veut à la dame, qui était jolie, et qui eût pu, sans cette calomnie, prendre aussi quelque ascendant sur le galant commissaire. Lancre et son confrère, effrayés, avancèrent, n'osant reculer. Ils firent planter leur potence royale sur les places mêmes où Satan avait tenu le sabbat. Cela effraya. On les sentit forts et armés du bras du roi. les dénonciations plurent comme grêle. Toutes les femmes à la queue vinrent s'accuser l'une l'autre. Puis on fit venir les enfants pour leur faire dénoncer les mères. L'encre juge, dans sa gravité, qu'un témoin de 8 ans est bon, suffisant et respectable. Monsieur d'Espagnet ne pouvait donner qu'un moment à cette affaire, devant se rendre bientôt aux états de Béarn. L'encre, poussée à son insu par la violence des jeunes révélatrices, qui seraient restées en péril si elles n'eussent fait brûler les vieilles, mena le procès au galop, bride abattue. Un nombre suffisant de sorcières furent adjugées au bûcher. Se voyant perdues, elles avaient fini par parler aussi, dénoncer. Quand on mena les premières au feu, il y eut une scène horrible. Le bourreau, l'huissier, les sergents se crurent à leur dernier jour. La foule s'acharna aux charrettes pour forcer ces malheureuses de rétracter leurs accusations. Des hommes leur mirent le poignard à la gorge. Elles faillirent périr sous les ongles de leurs compagnes furieuses. La justice s'en tira pourtant à son honneur. Et alors les commissaires passèrent au plus difficile, au jugement de 8 prêtres qu'ils avaient en main. Les révélations des filles avaient mis ceci à jour. L'encre parle de leurs mœurs comme un homme qui sait tout d'original. Il leur reproche non seulement leurs galants exercices aux nuits du sabbat, mais surtout leur sacristine, Bénédicte ou Marguilière. Il répète même des contes que les prêtres ont envoyé les maris à Terre-Neuve et rapporté du Japon les diables qui leur livrent les femmes. Le clergé était fort ému. L'évêque de Bayonne aurait voulu résister. Ne l'osant, il s'absenta et désigna son vicaire général pour assister au jugement. Heureusement, le diable secourut les accusés mieux que l'évêque. Comme il ouvre toutes les portes, il se trouva un matin que 5 des 8 échappèrent. Les commissaires, sans perdre de temps, brûlèrent les 3 qui restaient. Cela vers août 1609. Les inquisiteurs espagnols qui faisaient à Logroño leur procès n'arrivèrent à l'autodafé qu'au 8 novembre 1610. Ils avaient eu bien plus d'embarras que les nôtres, vu le nombre immense, épouvantable des accusés. Comment brûler tout un peuple? Ils consultèrent le pape et les plus grands docteurs d'Espagne. La reculade fut décidée. Il fut entendu qu'on ne brûlerait que les obstinés, ceux qui persisteraient à nier, et que ceux qui avoueraient seraient relâchés. C'est la méthode qui déjà sauvait tous les prêtres dans les procès de libertinage. On se contentait de leur aveu et d'une petite pénitence. Llorente. L'Inquisition, exterminatrice pour les hérétiques, cruelle pour les morts et les juifs, l'était bien moins pour les sorciers. Ceux-ci, bergers en grand nombre, n'étaient nullement en lutte avec l'Église. Les jouissances fort basses, parfois bestiales, des gardeurs de chèvres inquiétaient peu les ennemis de la liberté de penser. Le livre de l'encre a été écrit surtout en vue de montrer combien la justice de France, laïque et parlementaire, est meilleure que la justice des prêtres. Il est écrit légèrement et au courant de la plume, fort gai. On y sent la joie d'un homme qui s'est tiré à son honneur d'un grand danger. Joie gasconne et vaniteuse. Il raconte orgueilleusement qu'au sabbat qui suivit la première exécution des sorcières, leurs enfants vinrent en faire des plaintes à Satan. Il répondit que leur mère n'était pas brûlée, mais vivante, heureuse. Du fond de la nuée, les enfants crurent en effet entendre les voix des mères qui se disaient en pleine béatitude. Cependant Satan avait peur. Il s'absenta 4 sabbats, se substituant un diablotin de nulle importance. Il ne reparut qu'au 22 juillet. Lorsque les sorciers lui demandèrent la cause de son absence, il dit « J'ai été plaider votre cause contre Janicot. » Petit Jean, il nomme ainsi Jésus. « J'ai gagné l'affaire, et celles qui sont encore en prison ne seront pas brûlées. » Le grand menteur fut démenti, et le magistrat vainqueur assure qu'à la dernière qu'on brûla, on vit une nuée de crapauds sortir de sa tête. Le peuple se rua sur eux à coups de pierre, si bien qu'elle fut plus lapidée que brûlée. Mais avec tout cet assaut, ils ne vinrent pas à bout d'un crapaud noir qui échappa aux flammes, aux bâtons, aux pierres, et se sauva, comme un démon qu'il était, en lieu où on ne sut jamais le trouver.